Notes de comptoir. La vie du territoire au travers des cafés-concerts, bars associatifs, guinguettes et micro-lieux. Un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec SuperMab, le réseau des scènes et musiques actuelles, le collectif Culture Barbare et Radio Boa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée au micro-lieu de diffusion des musiques actuelles en Bretagne, Notes de comptoir. Dans ce nouvel épisode, direction le quartier de Cesson à Saint-Brieuc. Et on fait un arrêt cette semaine au Cessonnet, bar de quartier cher aux habitantes et habitants et aux personnes qui le font vivre. Et puis en seconde partie, on retrouvera Liane Saint-Pierre, chargée de mission au sein du collectif Culture Barbare, un collectif qui accompagne les cafés-concerts comme le Cessonnet. On fera le point avec Liane sur le rôle que le collectif joue auprès de ces lieux et on en profitera pour faire un petit état des lieux. Mais avant, on retrouve Perrine au micro de Marc Marcus Mitoire de Radioactive, votre radio locale basée à Langueux dans les Côtes d'Armor.
Nous sommes dans le quartier de Cesson à Saint-Brieuc, un quartier qui est situé à l'extrémité est de cette bonne ville. Et j'ai le plaisir d'être avec Perrine, qui est donc la patronne, on peut le dire, Perrine. D'un bel endroit qui s'appelle le Cessonnet et qui est à la fois un restaurant, qui est à la fois aussi un bistrot, un lieu de vie, un lieu évidemment où il y a des concerts, un lieu qui fait partie de Culture Barbare. On va évoquer tout ça avec toi. Perrine, comment t'es arrivée ici? Ça fait combien de temps?
Alors, on a fêté la 10e année l'année dernière, donc j'ai entamé la 11e. Et donc, on est arrivé, on était avec mon ex-mari à l'époque, on cherchait un endroit pour se lancer. Et on est tombé sur ce magnifique lieu avec ce superbe jardin et sous le charme. Et sous le charme du quartier aussi.
Parce que c'est un quartier un petit peu particulier de Saint-Brieuc. Cesson, c'est un quartier... On dit que les gens de Cesson ne sont pas tout à fait briochins, c'est vrai?
Ils sont Cessonnais. Les Cessonnais eux-mêmes disent « on va à Saint-Brieuc ». Je leur dis « non, vous êtes à Saint-Brieuc ». Ils disent « non, on est à Cesson ». C'est le quartier historiquement des pêcheurs en fait. Des pêcheurs et des vendeuses de maquereaux. Les hommes allaient à la pêche et les femmes vendaient le poisson.
Très bien, et donc c'est aussi, comme tu le disais, un lieu qui est assez grand quand même, le Cessonnet, où il y a beaucoup de concerts, il y en a assez régulièrement des concerts, et évidemment tu as adhéré à Culture Barbare, là aussi ça fait combien de temps?
Je suis adhérente à Culture Barbare depuis 5 ans je pense, je les ai rencontrés au moment du Covid en fait, et c'est vrai que leur ligne de défense, leur position me paraissait plus proche de mes convictions. Culture Barbare, ça existe depuis 99. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi une vision qui est très juste de l'évolution du bar en France, puisqu'il y a 5 bars qui ferment par jour à peu près. Je ne sais pas si c'est toujours la moyenne, mais ça l'a été longtemps. Je crois qu'avant-guerre, je ne sais plus combien de bars il y avait, mais c'était énorme. Et le fait d'avoir ces 30 ans de lisibilité, ils ont aussi vu à quel point... Enfin, je pense trouver le bon axe de défense aussi de ces lieux-là et aussi une bonne vision de la pluralité qu'il y a de genre de bar en fait.
Très bien, et du coup ce qu'il y a aussi de remarquable dans ta programmation, c'est que c'est plutôt une programmation qui va favoriser les musiciens et musiciennes avec instruments plutôt que les DJ. Ça devient assez rare de nos jours ça.
Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est un choix. Après on essaie d'avoir une programmation assez éclectique. Elle a évolué aussi à travers des rencontres. Il y a des gens avec qui je travaille maintenant sur la programmation des concerts qui sont des gens plus jeunes qui m'ont fait du bien, qui ont donné un nouveau souffle. Et du coup, le but, c'est quand même de rester alerte, de ne pas tomber dans l'entre-soi et de ne pas faire les mêmes choses tout le temps. En fait.
Alors, il y a un lieu qui était historique à Saint-Brieuc, qui est aujourd'hui fermé depuis plus de 20 ans, c'est le Wagon.
Ah bah oui, ça c'est pareil, ça s'est fait comme ça, au gré des rencontres et des amitiés que moi j'ai liées avec des anciens du Wagon. Eux, ils étaient un peu orphelins de bar à Saint-Brieuc à un moment. Et j'ai bénéficié de leur expérience. Des gens comme Peck ou Marco, qui est chanteur de Capricorne. C'est des gens qui m'ont partagé avec eux leur savoir-faire d'organisation de concerts et qui sont là, pas loin, en coup de main. Ou pour la prog aussi. C'est 20 ans de vie à Saint-Brieuc, 20 ans de rencontres et puis 10 ans de ce bistrot qui est là et qui, mine de rien, est toujours là, quoi. Moi, j'ai bossé à la passerelle. L'histoire de la rencontre, elle est quand même au cœur. Elle est vraiment au cœur du bistrot. Déjà, le bistrot, c'est ça, quoi. C'est des gens qui sont côte à côte à un comptoir, qui parlent, qui se rencontrent Et je pense que les rencontres les plus surprenantes qu'on peut, dont moi je peux être témoin ou que je peux faire sont souvent au bar. Quoi.
C'est sonné, il y a un petit peu de monde, il y a une belle ambiance ici. Je suis avec Marion, et puis Marion, elle est devant des œufs, elle est devant des pains bio, elle est en fait devant des paniers. Qu'est-ce qui se passe ici, Marion ?
Bah en fait, c'est la distribution de la MAP La Saisonnette tous les jeudis soirs au Saisonnet. Et ma foi, c'est plutôt sympa parce qu'on est dans un bar sympa et puis qu'il y a des tas de gens qui sont ravis de venir chercher leurs courses de la semaine ici.
Alors c'est un bar qui fait des concerts, c'est un bar de quartier, on l'a un petit peu dit. Et c'est aussi un bar où on vient chercher à manger, si je comprends bien.
Bah voilà, on prend son panier pour la semaine. Donc selon les besoins de chacun, il y a des légumes, du pain, des œufs, des galettes. Et quand c'est le moment, du fromage de brebis, du fromage de chèvre, qui vient d'ailleurs tout droit de Saint-Brieuc, et en saison des pommes, et voilà, et c'est plutôt sympa.
Je vois qu'il y a des gens d'un peu tous les âges, là, il y a un jeune couple, ou je ne sais pas si c'est un couple d'ailleurs, hein, peut-être pas, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous venez chercher là ?
Eh ben, on vient chercher nos légumes, alors on a des légumes toutes les semaines, et également des œufs. Nous on s'est inscrit sur ces deux produits là quoi.
Voilà. Très bien, et c'est quoi le principe de la MAP ? Vous pouvez me l'expliquer rapidement ?
Du coup la MAP c'est une association je crois, c'est une association qui réunit plein de producteurs locaux et bio d'ailleurs. Et l'idée c'est de les regrouper à un endroit pour faciliter aussi l'accès à tout le monde pour avoir accès à ces produits frais et locaux quoi. Voilà.
Très bien, donc vous allez bien manger quoi.
Voilà, toutes les semaines, moi ça fait 3 ans maintenant que je fais ça, et puis du coup ça permet d'avoir des choses de frais tout le temps, on sait que c'est du local, et c'est des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger en temps normal, et ça permet de découvrir des nouveaux légumes aussi, et puis de se forcer à cuisiner et bien manger quoi.
Qu'est-ce que vous allez préparer à manger ce soir du coup ?
Bah, y a plein de choses, mais c'est vrai que comme on a des légumes qu'on n'achèterait pas, ou même qu'on voit pas dans le commerce, c'est trop bien quoi, on fouille des recettes... On peut faire plein de bonnes soupes, hein, parce que là, on a plein de trop bons légumes, donc non, c'est trop chouette.
C'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et en fait, ce qui était mis sur un de nos tracts, c'est que à la MAP, on est en mesure de pouvoir appeler par leur prénom ceux qui ont produit ce qu'on mange. Voilà, et ça n'arrive jamais.
Ouais, du coup, j'avais le droit, c'est toujours la mairie qui me paye, là. Tu vois.
C'est pareil quand à un moment quand elle avait affiché les thés, les thés verts, thés blancs, thés noirs, thés cons. C'est rigolo quoi, tiens. Petit point d'humour.
T'as des slogans. Il y a Tata qui a mis un slogan. Ma boisson préférée, c'est la flotte. Alors qu'on sait qu'elle prend 3 cuites par jour, mais bon.
Je dois le dire aussi, alors ça c'est pas forcément très radiophonique, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder ici même au Saisonnet, et je ne peux pas ne pas évoquer, tiens par exemple la pancarte que j'ai sous les yeux, Staff Only comme disent les cons, ça c'est juste à l'entrée de la cuisine, il y a un grand portrait de Paul Watson que tu as défendu bec et ongle au moment de son incarcération, c'est aussi un lieu engagé, il ne faut pas le nier, c'est une véritable dimension du Saisonnet ça.
Oui, ma mère, moi je suis fille de commerçant, ma mère elle râlait au début parce qu'elle disait « on fait pas de politique dans un bar, Perrine ». Et j'ai dit, si, parce qu'il n'y a pas plus politique qu'un bar. Il ne s'agit pas de faire de prosélytisme, il ne s'agit absolument pas d'imposer une idée. Ce qu'on défend ici, je l'ai appris avec les gens qui fréquentent le bar aussi. J'ai rencontré il y a 10 ans des nanas qui allaient à Shangat, on a fait des collègues pour les migrants, tout ça, ça s'est tissé autour, encore une fois, des rencontres. Et moi, je me suis formée, même plus politiquement, plus ici qu'ailleurs, en fait.
Des voisins qui, des fois, viennent aussi déguster des concerts. Parce qu'il y a des concerts le dimanche après-midi aussi, qui commencent assez tôt, qui finissent tôt. T'as jamais eu de plainte, très honnêtement ?
Non, j'ai jamais eu de plainte. Il y a peut-être une fois ou deux, ils m'ont dit « Oh, dis donc, on entendait quand même jusque chez nous. » Et c'est quand même de l'autre côté du quartier. Mais en fait, j'estime que c'est pas plus chez moi que chez eux. Donc, on essaie de faire attention. Et aussi, on laisse la porte. Ils ont mon numéro, quoi. Je me rappelle une fois, je leur avais donné. Non, s'il y a un problème, venez me voir. On discute et évidemment, on fait attention.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous habitez le quartier ?
Alors, c'est ça, on habite le quartier depuis 2 ans maintenant. Donc, tout fraîchement arrivé, ça, mais on commence à bien s'ancrer et faisant partie de l'ancrage, le Saisonnet. Alors, franchement, déjà, quand on voit la lumière, on a envie d'entrer. Et honnêtement, c'était important d'avoir justement une vie de quartier. Et ce qu'on a vu tout de suite, c'est le Saisonnet. On s'est dit, c'est un petit bar sympa. Et après, on a vu vraiment tout ce que Perrine proposait. entre la restauration, la culture, le théâtre, les concerts et le magnifique jardin pour jouer à la boule bretonne, ben, franchement, conquise.
Le Cessonnet fait aussi partie culture barbare, ça veut dire des concerts réguliers. Aussi ici, il y a des concerts qui vous ont plus marqué que d'autres.
Bah là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu énormément de concerts. On avait eu la troisième partie de Carnaval au Rock. Honnêtement, je me suis dit ben, que ça n'avait rien à envier aussi au festival. C'était vraiment, complet et ça complétait le festival, donc avec un très bon son. Après, on a eu aussi l'occasion de voir des groupes que nous, on connaît, notamment Aval, qui vient de Metz et Marseille. Donc qu'on a apprécié parce que Perrine est toujours ouverte à ramener en fait des groupes qu'elle apprécie mais qui demandent aussi des dates et en faire profiter tout le quartier en fait.
Et en tant que voisine, donc vous n'êtes pas embêtée par le bruit pour le coup et la musique?
J'adore le bruit, je l'entends de chez moi donc je me dis ah il y a quelque chose c'est sonné, hop je me prépare et puis j'y vais.
Aujourd'hui, culture barbare, pour revenir là-dessus, je sais que tu es très très militante, je dirais, de cette cause-là.
Bah, je suis au conseil d'administration de Bretagne, avec, je crois qu'il y a Mick du Canard électrique, j'ai plus tous les noms, il y a eu longtemps Jean-Jacques du Cellier, qui est quand même la vieille garde des cafés-concerts costa-américains. Et bah, l'occasion, là, il y a l'AG qui approche à mi-mars, qui va se dérouler à Toulouse, c'est l'occasion de se voir, de se croiser, de partager nos inquiétudes, notre quotidien aussi, parce qu'on est quand même souvent tout seul au renne d'un établissement. Je pense à Cécile Otikos à Morlaix, Fafa, alors Rock Mélène, des femmes aussi, pas mal, qui ont donc du coup des enfants à la maison, enfin, c'est plusieurs problématiques qui se posent. Et en fait, là, de se retrouver tous, notamment pendant l'AG Barbare, où il va y avoir des patrons qui ont deux VNB, des gens qui ont des cafés associatifs, d'autres qui ont des bars de quartier. Et du coup, ça permet vraiment d'échanger avec nos lieux aussi différents qu'ils soient. Et en regardant les procs des autres, on dit, tiens, il a fait ça, c'est une bonne idée, tiens, pourquoi pas. De la projection de films, il y a des bars qui font plein de trucs, donc il ne faut pas hésiter à piocher, les idées, ça circule. Hein.
Deux, trois petits souvenirs quand même. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes de musique ici? C'est compliqué.
Alors, bah, du coup, je vais aller au récent parce que là, tout récemment, on a reçu le Montreuil City Orchestras. On a tissé un espèce de pont avec le quartier de Montreuil à Paris depuis quelques années. Et Kik, qui est l'harmonica de Johnny Montreuil, ils sont déboulés à 7 zikos. Donc rien que ça, déjà, c'est assez délectable d'avoir 7 musiciens sur scène dans un bistrot comme ça. Et avec une bonne petite joie à la maison derrière et des belles rencontres en plus, parce que chacun des musiciens, ils jouent dans d'autres trucs, ils dessinent tous. Marine Vassal, qui est artiste peintre dans le quartier, elle avait fait une affiche spécialement pour eux. On voulait leur faire un clin d'œil. Et du coup, voilà, donc les rencontres, c'est pour tout le monde en plus. C'était chouette.
La cliente ou le client le plus improbable que tu aies jamais vu ici?
J'en ai une quotidiennement qui est assez improbable, mais qui est quotidienne. C'est notre yo-yo nationale qui est la voisine, qui est assez emblématique de la figure de bistrot dans les quartiers, quoi. Tout le monde la connaît et elle est super. Après, improbable, je sais pas, il y a les Berlinois de... je sais plus comment elle s'appelait, le groupe qui était venu l'année dernière, qui avait des looks tout jeunes, 20 ans tout frais. Avec des looks complètement improbables aussi.
Si tu avais une star à faire venir, enfin une star ou quelqu'un vraiment très connu que tu aimerais faire visiter le Cessonnet?
Ah bah le président Groland, évidemment. D'ailleurs, je voulais leur demander la reconnaissance du Cessonnet en territoire grolandais, mais il faudrait que j'aille au bout de l'idée.
Jules-Édouard Moustique, si tu nous écoutes, en plus c'est un homme de radio, tu sais.
Ah bah ouais, bah ils sont les bienvenus, hein. on a l'esprit Groland.
Dernière chose que je voulais te demander, Perrine, en te remerciant de ton accueil, évidemment, tu es aussi restauratrice, tu organises les concerts, tu fais toi un petit peu, je ne vais pas dire toute seule, parce qu'il y a quand même quelques alliés avec toi, mais ça va, on arrive à mettre ses bonnes cases au bon endroit.
Bah, faut que je change de matelas, parce que j'ai mal au dos, mais non, ça va, il y a des moments, hein, c'est dur, mais bon, je crois que tout à chacun dans sa profession, on a des moments où on n'a plus envie, quoi. Et puis voilà, puis il suffit qu'il y ait... En général, c'est assez drôle, quand j'ai un gros coup de blues, j'ai une bonne surprise au bar. souvent. L'autre jour, il y avait une carte postale géante posée à l'entrée du bar et du coup, j'ai ricané dans ma manche et hop, ça y est, c'est reparti.
Bah, les cartes postales, c'est une tradition ici puisque il y en a du monde entier. Je crois que les personnes qui voyagent t'envoient de toute façon une carte postale. Ça fait partie du voyage pour les clients du Cessonnet.
Ah bah, c'est assez dans l'ADN du bar. Hein. Il y a des gens qui envoient des cartes postales nulle part, sauf dans leur bar. Il y a souvent dans les troquets, je pense. Je crois que chez Relais, il y a des cartes postales affichées. Je crois que donc c'est un truc quand même qui est... C'est vrai qu'on a fait des concours de cartes postales et maintenant, il y a des gens qui écrivent à personne, sauf ici. Puis on ne reçoit pas que des cartes postales. On reçoit des couches, on reçoit des briques, du savon. Enfin, on a reçu quand même par la poste pas mal de trucs. Ça va ?
Voilà à l'instant un reportage réalisé au Cessonnet à Saint-Brieuc par votre radio locale et associative Radioactive. Un reportage signé Marc Marcus Mitoire dans lequel vous avez peut-être entendu ce nom, collectif Culture Barbare. On va justement continuer de le citer puisque j'ai le plaisir d'être avec Liane Saint-Pierre, chargée de mission au sein du collectif Culture Barbare. Bonjour Liane.
Bonjour Clément.
Comme on a pu l'entendre eh bien, dans le reportage, le collectif Barbare existe depuis 1999. C'est aujourd'hui une fédération nationale qui réunit plus de 500 cafés-concerts, cafés-cultures, clubs et bistrots en France et qui accompagne donc ces structures sur des enjeux à la fois économiques, juridiques, artistiques et politiques. Avant de se plonger un petit peu dans tout ce que fait le collectif, j'aimerais, Liane, revenir un petit peu sur le reportage que vous avez pu entendre donc, au Cessonnet et avoir votre réaction.
Eh bien, je trouve très chouette. Je trouve qu'elle a très bien présenté le collectif et en plus mettre son lieu à ce moment-là, pile au moment de la MAP, ça montre vraiment la diversité des propositions que peut faire ce genre de lieu. Et voilà, je trouve assez représentatif.
Alors, on va en savoir un petit peu plus avec vous, Liane, sur ce que le collectif fait. Mais avant, j'aimerais revenir un petit peu sur un chiffre que l'on a pu entendre avec Perrine du Cessonnet dans le reportage. 5 bars ferment chaque jour en France. Est-ce que c'est un chiffre qui tend à s'agrandir ou à se stabiliser? Et puis, comment vous l'expliquez au sein du collectif?
Alors, oui, hélas, complètement. Et c'est particulièrement plus les petits lieux comme le sien, les petits lieux en plus indépendants. On en a de plus en plus. Après, les chiffres sont un peu faussés suite après Covid. Il y a eu beaucoup d'aide. Mais là, on voit une accélération de dépôt de bilan pour plusieurs raisons. La première étant le pouvoir d'achat, en fait, des gens. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Et moi, j'aime bien le dire qu'à l'heure actuelle, je trouve qu'être un lieu culturel, c'est être militant parce que on n'est pas du tout dans une abondance et dans un lieu qui il rapporte beaucoup de richesses, mais pas forcément financières. Mmh. Et on le voit du coup, donc les gens consomment un événement, mais pas forcément le comptoir. Il y a beaucoup de problèmes de voisinage et de bruit aussi qui accentuent le fait que beaucoup de lieux sont obligés de réduire drastiquement leur programmation parfois et qui faisait un peu l'économie du lieu. Et voilà, il y a vraiment cette raison économique qui joue, mais oui, hélas, il y en a de moins en moins. Et après, dans les grandes villes, il y a toutes ces questions de gentrification, mais bon, ça, c'est un autre souci, c'est vraiment sur les grandes métropoles.
Alors, on l'a aussi entendu dans le reportage, Perrine évoquait avec enthousiasme l'Assemblée générale du collectif Culture Barbare, qui a eu lieu en mars dernier, avec cette envie voilà, de croiser les expériences, de témoigner, et puis de mutualiser aussi les réflexions entre lieux et acteurs. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, Liane, à chaud comme ça, voilà, ça fait un mois. Et puis voilà, dans quel état d'esprit sont les cafés-concerts, café-culture aujourd'hui?
Eh bien, elle était très chouette pour commencer. On a des très, très beaux intervenants et intervenantes. Nous, ce qui ressort, parce que comme l'a dit Perrine, c'est vrai que c'est la magie de Barbare, c'est aussi d'avoir plein de lieux complètement différents. C'est ce qui fait aussi sa richesse. Et c'est vrai qu'elle a complètement raison. Ce moment-là permet de parler des problématiques et de l'évolution aussi du métier, donc du café culturel. Et là-dessus, c'est intéressant de voir comment ça se passe chez les autres aussi, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc, on a plein de bonnes idées qui sont sorties. On a d'ailleurs fait tout un atelier sur le café que l'on appelle le café rural, le café de campagne, qui n'a pas les mêmes problématiques que les cafés de grandes métropoles, qui est au départ le plus grand nombre de nos adhérents. Et là, on voit du coup qu'il y a quand même plusieurs problématiques qui se retrouvent. Ça va être le souci pour, en tout cas, un café rural du transport, le souci du financement, le souci de la visibilité des offres culturelles. Et là, on a essayé de commencer à mettre en place comment montrer cette visibilité, comment faire des projets communs. Il y a plusieurs projets qui sont mis en place, genre une AMAP, cette fois culturelle, ou un passeport culturel. Enfin, il y a plein de choses à voir après ce qui va avoir le jour, mais c'était assez riche, oui.
Quand on entend ce que vous nous dites là, Liane, donc c'est l'horizon, il est plutôt comment ? Alors, il est plutôt clair ? Comment il, qu'il soit politique ou économique ? Comment il se dessine alors ?
J'aimerais dire qu'il est clair, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais non, c'est un secteur qui est très en souffrance. Je pense qu'on récupère aussi ce qu'on a bien voulu banaliser pendant le Covid, mais qui était déjà là avant, qui est du coup le lien social et la culture, c'est non essentiel. Et là, ça se ressort énormément. On voit qu'à l'heure actuelle, il faut faire beaucoup d'événements pour que les gens viennent. Mais en même temps, on voit que les gens sélectionnent aussi leur passage. Il y a aussi beaucoup de souffrance et de charge mentale, mine de rien, parce que les équipes sont obligées d'être réduites. Il y a aussi toute la souffrance des artistes, que les bars aussi se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas embaucher tout le monde non plus. Il y en a qui sont obligés de réduire, comme je disais tout à l'heure, leur programmation. Et c'est vrai que faire un concert dans son lieu, souvent, c'est à perte. C'est compliqué, là, en ce moment.
Alors, au-delà de la musique et des concerts, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que ces lieux sont devenus des espaces aussi politiques à part entière ?
Ah, complètement. Perrine a très bien dit, elle a raison. Oui, c'est des lieux, de toute façon, c'est des lieux de vie. Donc, c'est un lieu où c'est pas en logar non plus. Les gens, ça passe un moment ensemble. Et encore plus dans ces petits lieux, je trouve qu'il y a vraiment ce partage, en fait. On partage un verre, on partage le comptoir, on ne connaît pas forcément les gens, forcément, on discute de l'actualité et on parle aussi de ces problématiques. Donc, il y a pas mal de rencontres qui se font, de projets qui se mettent en place et pour essayer de pallier cette crise politique qu'on est en train d'avoir. Parce que là, par exemple, on voit qu'avec la montée du FN, on a la peur de l'autre. Vraiment, la culture est non essentielle. Et on le voit d'ailleurs qu'il y a quelque chose de militant qui se met en place, même dans la programmation des lieux et aussi dans les propositions et les demandes aussi du public. On ne parle plus de café-concert, on parle vraiment de café culturel. Il y a vraiment une programmation qui est beaucoup plus diverse. Par exemple, on a toute une scène qu'on n'avait pas avant dans les bars, ou moins. Donc, on a l'émergence du coup du drag show, on a aussi le stand-up qui revient aussi, on a aussi des conférences gesticulées qui peuvent se faire dans les bars. Nous, on le voit aux programmations du festival, il n'y a pas que du concert. Il y a aussi de la pyrophilo et du théâtre d'impro. Enfin, on parle vraiment de lieux culturels, pour le coup. Surtout dans des petites régions qui sont dans des quartiers ou même où des fois c'est en manque. On est en manque de ces lieux-là, je trouve. Parce que on rentre dans un bar par hasard des fois et on peut faire des belles rencontres. Tandis que quand on va dans une salle de concert ou dans une galerie, on sait qu'on va avoir une expo ou un concert. Là, on se laisse un peu porter par l'inconnu et c'est ça qui est chouette parce qu'il y a un mélange aussi de générations et même de réflexion politique.
Oui.
C'est bien de ne pas être d'accord des fois quand c'est constructif.
Le collectif est aussi donc force de plaidoyer et d'interpellation. Comment se positionnent aujourd'hui les municipalités, départements, régions face à ces lieux ? Est-ce qu'il y a un soutien sincère ? Comment ça se passe ?
Eh bien, ça dépend vraiment du lieu. Ça dépend. Je trouve qu'il y a des collectivités qui suivent vraiment ces lieux-là, qui ont conscience que c'est que sans eux, il y a une vie en moins, mine de rien, c'est quand même un lieu de vie. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs, par exemple, mairies qui sont des fois à la recherche de leur café associatif parce qu'il est en manque de café présent. Après, moi, je trouve que des fois, il y a une petite hypocrisie de la part de certains représentants des lieux, dans le sens où ces lieux sont considérés comme des lieux culturels quand il y a besoin de mettre en avant la richesse culturelle d'une ville ou d'une région ou d'un département. Et d'autres fois, c'est juste des lieux qui sont des lieux de perdition et d'une boîte à bruit, quoi. Je trouve que ça dépend. Alors après, il y en a qui aident quand même, hein, évidemment, tout n'est pas noir, en mettant en place des chartes, en mettant en place des moments de conciliation avec le riverain qui est mécontent, ou aussi en alimentant l'enveloppe du GIP. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même dans certains endroits, le riverain est roi et je trouve que la mairie, des fois, est vraiment du côté du riverain. Et on voit vraiment que le lieu de débit de boissons et pas le lieu culturel. Ça dépend.
Quand vous dites cela, ça interpelle sur les nuisances sonores. C'est ce dont on parle là, Liane ?
Oui, tout à fait. Les nuisances sonores, c'est vraiment un des grands points, des grandes problématiques que rencontrent nos adhérents actuellement. Régulièrement là, on fait beaucoup, de plus en plus d'accompagnement sur les lieux pour mettre en place des médiations avec leurs riverains mécontents. Des fois, on y arrive avec justement les mairies des fois qui nous aident ou même nous directement. Mettre en place des choses et dire voilà, je pense que ce serait bien que tu puisses invite ton riverain, ou parce que des fois il y a la peur en fait. Je sais que là j'ai aidé un lieu par exemple qui était identifié électro. En fait, le riverain avait toute une idée assez faussée du public électro. Mm-hmm. Il y avait forcément des gens défoncés, etc. Et en fait, en se rencontrant, il y a la priori qui est partie. Mais on le voit que vraiment, déjà avant le Covid, et je trouve qu'après le Covid, il y a vraiment eu le silence qui a été qui est mis sur un piédestal, et la nuit est forcément silence. Alors, c'est pas vrai.
Alors, le rôle du collectif Culture Barbare, c'est aussi d'accompagner ses adhérents, hein, que ce soit au niveau juridique, administratif, au niveau de l'obtention de la licence de spectacle, de l'accueil, des préventions, de la sécurité. On peut prendre l'exemple des violences sexistes et sexuelles, ou encore plus récemment du Dry January, puisque les bars ne sont pas que des lieux de perdition. Et en Bretagne, il y a plus de 90 adhérents sur 500 que vous accompagnez. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en Bretagne?
Bien oui, ça grossit, on est assez content. On a à peu près une centaine d'adhérents. On est plutôt sur les côtes. On est autant du coup à Saint-Brieuc, mais aussi on peut être à Morlaix. On va être aussi dans des toutes petites communes. On peut être à Lannion, on est beaucoup à Rennes évidemment. Vannes aussi, on est très présent. Comment ça fonctionne? Alors, nous, on a une toute petite équipe salariale, donc on ne peut pas être partout. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des super administratrices et administrateurs. Comme par exemple Perrine est une administratrice de la région Bretagne. Et elle, du coup, c'est une référente pour les nouveaux adhérents ou ceux qui souhaitent découvrir aussi le collectif. On ne passe pas forcément par moi et je trouve ça encore mieux quand c'est une patronne qui parle du collectif auquel elle a adhéré, plutôt qu'un salarié. Voilà, nous, on les met en lien. Et évidemment, mon travail, c'est aussi vraiment de valoriser ces lieux et d'emmener aussi la problématique des fois qui sont communes aux collectivités, voire même au-dessus. Ce qui nous a permis d'ailleurs de gagner en 2019 sur l'antériorité. Mmh. Et c'est le nombre aussi qui permet d'avoir aussi du poids.
Est-ce qu'ils sont nombreux à adhérer en 2025? Est-ce que ça continue? Il y a de nouvelles adhésions?
Oui. En fait, notre chiffre ne bouge pas forcément comme ça parce qu'évidemment, il y a toujours des bars qui ferment pour X raisons. Mais oui, on a toujours une centaine d'adhérents en plus, au national en tout cas. Ça augmente. Mais on voit qu'il y a le secteur est en souffrance. Par exemple, avant, on avait plus des adhérents plus sur les grandes villes. Maintenant, on a de plus en plus de cafés ruraux qui adhèrent parce qu'ils essaient de se sentir aussi moins seuls. Et ça fait du bien, je pense aussi pour eux, de s'apercevoir que... parce que des fois, quand on est un peu isolé dans son lieu, on a l'impression que tout va mal à cause de nous,
oui.
de fonctionnement. Et ça fait du bien de s'apercevoir des fois que le problème est un peu partout et que voilà, ça permet de se remettre en question, certes, mais aussi d'avancer sans forcément déprimer et de penser ensemble une solution. Voilà.
Il y a de nombreuses choses à dire et on pourrait encore passer de nombreuses heures à en discuter, mais on va devoir clore cet entretien malheureusement. On invite tous les auditeurs, auditrices à se renseigner davantage sur le collectif via bar@bar.com ou à rendre visite à ses adhérents comme le Cessonnet à Saint-Brieuc, le Coquelicot à Fougères, le Couta à Erdeven, le Pavé à Douarnenez ou encore le Barbe à Plois. Merci beaucoup Liane Saint-Pierre pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes chargée de mission pour le collectif Culture Barbare.
Merci Clément.
C'est la fin de cet épisode, alors pourquoi pas se faire une petite virée dans l'un de ces lieux près de chez vous pour les soutenir et continuer de vibrer au son de ces artistes et groupes programmés. Si ce n'est pas possible là tout de suite, eh bien vous pouvez toujours réécouter cet épisode consacré au Cessonnet et continuer votre périple de découverte des micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne sur corlab.org. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Notes de comptoir, un magazine produit par la Corlab et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne en DAB+, avec le soutien du Centre national de la musique.